Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin dans la matinale de Bretagne 5 est Yannick Lecam. Il est secrétaire de la Fédération du Parti communiste des Côtes d'Armor. Et il est venu jusqu'à nous pour commenter précisément l'actualité politique. Et on va parler aussi longuement des municipales. Bonjour Yannick Lecam.
Bonjour à vous.
Alors, quand je disais qu'on allait parler longuement des municipales, le Parti communiste a décidé d'essayer de fédérer, on pourrait le dire comme ça, vous allez me démentir, hein, si je dis une bêtise, mais en tout cas, d'œuvrer pour qu'il y ait une force de gauche ou des forces de gauche qui s'unissent pour aller aux municipales. En quoi ça va consister ?
Dans le débat que nous avons eu pour préparer ces élections municipales, et je pense particulièrement à mes camarades de Saint-Brieuc, par exemple, nous avons développé un concept, je vais dire les choses comme ça, que nous ne sommes pas les tenants de gauche irréconciliable. Mmh. Alors c'est vrai, il y a des difficultés aujourd'hui. Et donc il faut dépasser ces difficultés, parce que au-delà de la question des élections municipales, on sait bien qu'il y a des échéances importantes qui peuvent d'ailleurs arriver plus vite que ce qu'on peut penser.
Oui, on peut imaginer une dissolution. Hein,
exactement.
C'est encore dans les tuyaux. On parlera du budget tout à l'heure. C'est pas gagné, comme on dit.
Et donc, il relève de notre responsabilité politique à tous et à toutes d'ouvrir une perspective pour le peuple français. Et donc, cette perspective ne peut s'imaginer qu'à partir du moment où on se parle. Je vois bien que c'est difficile, mais y compris pour nous. Les dernières élections législatives, il y a eu un accord national qui faisait que dans ce département, il n'y avait pas une ou un communiste. On parle même pas de passe de titulaire. On parle d'être présent dans cette bataille politique. On n'a pas pu l'être. Donc, mmh. Mes camarades communistes, ça les satisfaisait pas, parce qu'on pense que nous sommes une composante de la gauche française, une composante qui a du poids, qui colore quelque part la gauche d'un point de vue qui est singulier.
Vous avez eu l'impression d'être un peu mis sur la touche, permettez-moi le terme.
Oui, on l'a été, objectivement, mm-hmm. C'est même pas l'impression.
Vous avez été, oui.
On l'a été. Ça nous a pas satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour autant, nous continuons à penser que on doit continuer à parler, à imaginer et à œuvrer pour que cette responsabilité qui est la nôtre à tous les partis de gauche, de faire en sorte que s'ouvre une perspective qui permette au peuple français d'avoir d'autres perspectives que celles qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
Est-ce que c'est plus facile, j'allais dire à l'échelle locale ou départementale en l'occurrence, de discuter avec les autres forces de gauche? J'entends par plus facile le fait que c'est assez compliqué, on le voit, à l'échelle nationale.
Non, je pense pas. C'est pas plus facile au plan local. On voit bien, quand on regarde comment se construisent les listes au niveau, par exemple, j'ai pris l'exemple de Saint-Brieuc tout à l'heure. On voit bien qu'il y a des difficultés et que le maire de Saint-Brieuc est obligé de tenir compte de ces difficultés. Mais nous, notre proposition politique, c'est on connaît ces difficultés qu'on retrouve au plan national, mmh. C'est les mêmes. Au-delà de ces difficultés, il faut continuer de façon déterminée à faire en sorte qu'on puisse dialoguer et construire, je disais tout à l'heure, cette perspective. Et donc, c'est en cela que notre volonté est de ne pas s'en tenir à cette gauche qui, pour le moment, semble irréconciliable, mais il faut qu'elle se réconcilie.
Voilà, faut créer des passerelles, créer des ponts pour que le dialogue se fasse, y compris avec la France Insoumise. On sait que c'est compliqué, par exemple, entre le PS et la France Insoumise.
Oui, je ne les ai pas cités délicatesse, je vais dire les choses comme ça. Mais oui, on voit bien que c'est entre autres là. Alors, entre le Parti communiste et puis la France insoumise, c'est pas forcément non plus les grands amants. Mais il faut pied à pied discuter, faire en sorte que les choses bougent, parce que autrement, quel est le paysage qu'on va proposer politique? Quel est le paysage qu'on va proposer au peuple français?
Vous parliez des échéances tout à l'heure, Yannick Le Cam, échéances proches, hein, dans moins de 4 mois maintenant, pour les municipales. Un petit peu plus loin, on voit poindre déjà la présidentielle et l'échiquier politique se mettre en place. On a vu les sondages, là encore, à 18 mois de l'élection, c'est peut-être un peu loin, mais on voit quand même une percée de Rassemblement national. C'est ça aussi le danger, si la gauche arrive désunie, quelles que soient les élections, que ce soit les élections municipales ou que ce soit les élections, l'élection présidentielle ou même des législatives, si elles intervenaient entre-temps. C'est ça le danger, c'est de voir une poussée encore plus forte du Rassemblement national.
Ben oui, si on ne fait pas d'autres propositions politiques et qu'on ne répond pas aux aspirations des populations, parce qu'il n'y a pas une seule population, si on ne répond pas politiquement à ces aspirations-là, eh ben c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le paysage, on ne laisse quelque part que le Rassemblement national. Et donc, nous, c'est pour ça que cette responsabilité, elle est déterminante. C'est de faire en sorte qu'on offre une autre perspective que celle du seul Rassemblement national.
Alors, il faut constituer un programme. Alors, discuter à la fois avec les autres forces de gauche et en même temps mettre en place un programme. J'imagine que l'équation n'est pas toujours facile.
C'est pas forcément le plus dur.
Non.
Aux dernières élections législatives, il y a eu un programme qui a été proposé aux Français, qui a d'ailleurs ouvert cette perspective dont je parle depuis tout à l'heure. Et donc, ce qui était possible hier est possible aujourd'hui. Donc, ce programme, on a plus de temps pour le préparer, parce qu'à l'époque, ça a été en quelques semaines. Mmh. Mais donc, on a le temps de discuter, de travailler. Donc, je pense que la question n'est pas le programme. C'est possible, on l'a montré. La question, c'est l'opportunité.
Mmh. Alors, on voit que la droite, de son côté, part désunie aussi. Hein. La droite, on a le centre, le bloc central, qui s'est affaissé, on pourrait le dire comme ça. La droite qui part désunie. Là aussi, ça renforce d'un côté LFI, d'un autre côté le Rassemblement national. Là aussi, comment exister en tant que force de gauche et se raccorder, finalement, par exemple, à LFI?
Je ne sais pas si c'est se raccorder. Je pense que la gauche a toujours été diverse. Et que c'est dans cette diversité qu'il faut trouver la richesse des propositions politiques, la richesse de la proposition qui est faite à un peuple qui souffre. Et donc de faire cette richesse et cette diversité doit pouvoir permettre de construire une proposition politique qui réponde aux aspirations profondes. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui une journée d'action sur la question des services publics. Prenons cette question, les services publics par exemple. Faisons en sorte que de cette question des services publics, nous fassions une proposition politique, ensemble.
Il y a une attente sociale en France, on le voit de plus en plus, une attente sur les services publics aussi, on le voit, que ce soit d'ailleurs dans les villes ou dans les campagnes, nombre de services publics qui ferment des guichets, des bureaux, et finalement les Françaises et les Français ne s'y retrouvent pas. Il est urgent de préserver les services publics. On entend aussi des voix, par exemple, qui s'élèvent pour privatiser l'audiovisuel public. Est-ce qu'il y a un danger là aussi? Est-ce que finalement le service public est en danger?
Nous nous sommes exprimés dans la presse il y a quelques jours. On était sur la situation à Saint-Brieuc, mais elle est la même, je vais y revenir. Elle est la même partout. Oui, nous, notre conviction est que... Alors, il y a des attaques qu'on connaît tous sur le service public, sur des tentatives de privatisation, mais il y a des situations qui sont plus rampantes et qui se font à bas bruit. Je vais prendre un exemple. C'est tous ces services publics du quotidien qui sont établis et qui sont construits par par les communes. D'ailleurs, quelle que soit la couleur politique des maires, ils sont élus et ils rendent le service public pour leur population. À continuer d'étrangler les collectivités, petit à petit, ça va avoir une conséquence. Si c'est possible, j'y reviendrai, mais ça va avoir une conséquence, c'est-à-dire que ces collectivités locales, les communes, les régions, les départements...
qui souffrent beaucoup,
par exemple, ne seront plus en situation de rendre ce service public. Et à partir du moment où elles ne seront plus en position de pouvoir le faire, bien évidemment, on va avoir des officines, les unes après les autres, et qui sont d'ailleurs rattachées à des grands groupes, venir sur ce terrain-là, de façon à pouvoir faire du profit de ce qui est aujourd'hui un service public.
Voilà, on change de paradigme finalement, on introduit la notion de service, alors qu'il n'est plus public, mais permettez-moi le terme, payant finalement. Ouais.
Payant, c'est même pas... Le service, il ne sera pas forcément payant, mais ce qui est certain, je reprends l'exemple des collectivités, à partir du moment où une collectivité n'est plus en capacité de rendre un service public, elle va le faire faire par une boîte privée. À partir de ce moment-là, elle pourra continuer à faire en sorte que ce service soit gratuit ou établi de façon assez modique pour les populations. Ceci étant, ces officines dont je parlais tout à l'heure, elles vont se retourner vers les collectivités en disant maintenant, voilà la facture. Mmh. Et donc, c'est pas forcément les populations qui vont souffrir de ce qui va se passer, ce qui est certain, c'est que ce sont les budgets des communes et donc l'argent des populations qui vont en souffrir.
Ça nous amène au budget, Yannick Lecam. On sait que c'est compliqué. Là, le budget revient à l'Assemblée nationale. Il va y avoir des discussions. Il y a eu une forme de détricotage. On a entendu hier le Premier ministre alerter. Alors là, c'était plus sur des questions de défense, en disant « Attention, on ne va pas pouvoir assumer la commande publique en matière de défense avec les risques géopolitiques » et en pointant la Russie du doigt, très, très nommément. Plus largement, les collectivités, on le sait, souffrent, hein, vous le disiez à l'instant, Yannick Lecam, elles souffrent, elles alertent, certaines sont un petit peu au bord de la rupture. Là aussi, il y a urgence à ce qu'il y ait un budget qui soit plus social, plus axé sur les territoires.
Il faut arrêter, à un moment donné, de continuer sur une politique qui montre ses aspects néfastes. Je vais prendre un seul exemple. En 2023, ce sont 105 milliards d'euros, évidemment. Mmh. 105 milliards qui ont été dévolus par l'État aux collectivités territoriales. Dans le même temps, c'est 211 milliards qui ont été donnés aux grands groupes. Et ce n'est pas les PME, les PMI qui en ont profité. Ce sont des grands groupes, lesquels grands groupes ont fait des profits. Or, ces profits ne servent à personne.
Ils ne viennent pas abonder...
Ils viennent pas enrichir... C'était la thèse du ruissellement de notre président de la République. Le ruissellement, il s'est pas arrêté dans la poche des gens. Et donc, on voit bien là que c'est un débat de... Il devrait y avoir dans ce pays un grand débat démocratique sur la question du budget et du déficit budgétaire. Parce que ça relève aujourd'hui de la supercherie. On confond deux choses, l'endettement et le déficit budgétaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je vais prendre une commune, contribue à l'endettement de la France, oui, parce qu'elle investit, elle emprunte. Mais pourquoi elle emprunte? Parce que d'abord, elle n'a pas forcément tout l'argent qu'il faut au moment de faire cet investissement. Mais aussi, c'est un moyen de faire en sorte que quand on construit, je vais dire, une piscine, par exemple, ce ne sont pas que les gens du moment, la population qui est là au moment où on construit cette piscine, qui paye. Mmh. Ce sont les générations qui vont suivre sur 20 ans, 30 ans, qui vont la payer. Donc, elle s'endette. Donc, les collectivités locales participent à l'endettement de la France. Oui. Mais est-ce que les collectivités locales participent au déficit budgétaire de la France ? Non. Parce que, tout simplement, parce qu'elles n'ont pas le droit de voter des budgets en déséquilibre. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les dépenses qu'elles font, elles sont obligées de les prévoir en financement. Donc, les collectivités locales ne contribuent pas. Par contre, les collectivités locales, elles contribuent à 70% de l'investissement public. Et donc, derrière ça, ben c'est de l'emploi, c'est du service public, c'est de l'emploi. Et donc, il faut veiller à ce que les collectivités locales puissent continuer. Et donc, les questions de ce budget doit faire œuvre pour permettre aux collectivités locales d'assumer ces responsabilités. Je vais aller plus loin, si vous me permettez. On fête aujourd'hui les 80 ans de la sécurité sociale. Mmh. 1946, 1947, chacun imagine dans quel état était la France. Le déficit budgétaire de la France à cette époque-là était, alors, bien évidemment, en pourcentage, hein, était le même qu'aujourd'hui. Mmh. La part du déficit budgétaire relatif au produit intérieur brut de la France en 1947 était le même. Est-ce qu'on a fait une cure d'austérité ? Ben non. La décision qui a été prise à l'époque, c'est de faire exactement le contraire. Mmh. C'est d'investir dans l'avenir, d'investir dans les réponses sociales, la sécurité sociale. Et 15 ans plus tard, il n'y avait plus de déficit budgétaire.
Ça a été mieux géré à l'époque, mieux pensé. Là aussi, hein, en dehors de toute considération de sensibilité politique.
Oui. Enfin, oui. À l'époque, l'investissement dans l'humain, on sortait d'une guerre atroce. Mmh. L'investissement dans l'humain n'était pas une idée abominable. Mmh. Or aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire comprendre, c'est de dire que l'investissement humain ou dans l'humain fait partie des choses qu'il faut avec lesquelles il faut en finir.
On le voit aussi avec des nouvelles technologies, hein. Je me permets une petite parenthèse, mais on voit des grandes sociétés, alors ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique pour l'instant, qui sont en train de licencier les employés pour les remplacer par de l'intelligence artificielle. C'est le cas d'une grande société d'informatique, HP pour ne pas la citer, qui va dégraisser, pardon du terme, les effectifs pour remplacer les personnes par l'intelligence artificielle parce que ça coûte moins cher tout simplement. C'est dangereux, cette perspective.
Ben, on est déjà, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour le constater. Ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui est la réponse, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les réponses, y compris aux besoins des gens. Nous, au Parti communiste, on n'est pas contre le progrès, bien au contraire. Par contre, ce que nous pensons, c'est qu'il faut mettre à profit ces progrès pour permettre le progrès pour tout le monde. Quand on voit que toutes les démarches administratives aujourd'hui, il faut les faire derrière un ordinateur, tout le monde n'en a pas la capacité. Et donc, nous, on est pour le progrès. Les gens qui ont la capacité de le faire, ils vont gagner du temps, ils vont le faire, et c'est très bien pour eux. Et tout le temps humain que l'on gagne à le faire, il faut l'investir et permettre à ce que justement toutes les personnes qui n'ont pas ces capacités-là, on puisse les aider à faire leur démarche. Et donc, le progrès, il doit servir la cause humaine et pas le contraire.
Avec aussi, on reparle de la réforme des retraites qui est un petit peu entre parenthèses pour l'instant, mais on entend aussi des voix qui s'élèvent un petit peu partout, là aussi c'est assez transpartisan, pour dire oui, aujourd'hui on manque par exemple de bénévoles dans les associations, si on allonge l'âge de la retraite, eh bien il n'y aura plus de bénévolat et peut-être plus d'associations. Or les associations sont aussi sur le terrain, ça nous ramène aux collectivités locales, des relais précieux.
Et Je suis convaincu que les associations, contribuent à une forme de service public. Mmh. Elles rendent des services aux populations, aux jeunes, aux personnes âgées, etc. Donc, elles doivent pouvoir continuer à le faire. Je suis président de la mission locale En ce moment, on est très inquiet sur les capacités que va avoir la mission locale sur leur capacité à intervenir auprès des jeunes.
Avec des restrictions, là aussi, en termes budgétaires.
Moi, quasiment moins 6% en 2025. Mmh. Et là, on ne sait pas, évidemment, parce que le budget n'est pas voté, mais les perspectives dépasseraient les moins 10%. Et donc, là, c'est pareil. C'est la capacité à intervenir auprès des jeunes qui sont les plus en difficulté, qui vont donner, enfin, comme conséquence, c'est leur insertion dans l'emploi, mmh. leur logement. Enfin, c'est toute l'autonomie de la jeunesse qui peut être mise en cause parce que on ne leur permettra pas d'avoir un service public qui, alors certes, c'est une association, une mission locale, mais qui joue un rôle de service public dans le cadre du service de public de l'emploi et qui donc ce rôle-là, il est déterminant et aujourd'hui, on peut être inquiet.
Je parlais tout à l'heure du service public de l'audiovisuel que certains aimeraient voir privatisé. On pense aussi, allez, on va parler un petit peu, on va faire du corporatisme, comme l'on dit. On va parler aussi des associations, les radios associatives aujourd'hui qui souffrent beaucoup. On parle d'une réduction de 44% des aides publiques d'État aux radios associatives. Ça veut dire que 80% d'entre elles disparaîtraient demain. Est-ce qu'il y a aussi un danger pour la démocratie à ce niveau-là et la liberté de parole, pourquoi pas?
Mais c'était ce que j'allais dire. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la nécessité d'un débat démocratique sur la question du déficit budgétaire, du budget, du déficit budgétaire. S'il n'y a plus de médias pour permettre à ce que ce grand débat qui devrait être nécessaire, s'il n'y a plus de médias pour le faire, et de médias indépendants, eh ben, on sera dans un pays qui aura l'incapacité. Mmh. De pouvoir mener des grandes réflexions sur des grands sujets. Et on pourrait en développer d'autres. La question de la fin de vie, ce sont des débats qui se tranchent pas par un oui ou par un non. Il faut de l'argument, il faut de la pensée. S'il n'y a plus de médias pour se faire, ce pays aura un problème.
On a entendu d'ailleurs le président de la République s'exprimer autour du sujet en voulant labelliser les médias ce qui pourrait éviter éventuellement les fake news. Est-ce que là, il y a aussi un danger de prise en main du pouvoir? Ça a été dit, alors c'est CNews qui est visé, mais un peu plus largement tous les médias finalement qui ne correspondraient pas à une idée ou en tout cas à un fil de pensée. C'est une forme de reprise en main un petit peu... voilà, on revient un petit peu au temps de l'ORTF, si vous me permettez l'allégorie.
Et la censure. Oui, c'est un danger, et c'est un danger qui a toujours existé. On fait référence à l'ORTF et au pouvoir du ministre de l'Intérieur de l'époque.
Il y avait un ministre de l'Information à l'époque.
Un ministre de l'Information, c'est vrai, c'est même pas de l'Intérieur. Ministre de l'Information. Mais on voit bien que c'est une question qui reste tout le temps d'actualité, puisque la démocratie, c'est jamais un concept qui est définitif.
Mmh. C'est pas figé, finalement.
Ah non. Et donc, en fonction... moi, je ne suis pas non plus pour que CNews ou d'autres fassent et disent n'importe quoi. Donc, il faut réguler, il faut surveiller. Maintenant, entre surveiller, réguler et cadenasser, il y a une marge. Et la marge, elle est ténue. Mmh. Et donc, il faut y veiller avec comme la prunelle de nos yeux.
Alors aujourd'hui, on est dans un pays très fracturé. Alors on entend beaucoup de choses sur l'immigration, sur la sécurité. Là aussi, hein, ça nous amène au traitement de l'information. Ceci dit, ce sont des sujets importants. Aujourd'hui, on entend beaucoup de Français qui s'inquiètent pour leur sécurité avec le trafic de drogue, en particulier le trafic de stupéfiants, qui gagne ici beaucoup de villes dans l'Ouest, de villes moyennes, même Saint-Brieuc. Là aussi, il faut avoir une réflexion, il faut avoir une réflexion démocratique. Il faut associer les Français à cette réflexion.
Évidemment, parce que comme je viens de le dire, ce sont des questions qui sont complexes. Il faut avoir la volonté d'y répondre, parce que les personnes, et on le voit bien, par exemple, sur la question du narcotrafic, on voit bien que ce sont les populations les plus pauvres, les plus près, qui vivent dans des situations de la plus grande précarité, qui souffrent le plus de ce qui se passe dans la société. Et donc, on a cette obligation de faire en sorte qu'on leur permette de vivre dans la sécurité, j'irai plus loin, de vivre dans la tranquillité.
Avec beaucoup de jeunes aussi qui sombrent dans le narcotrafic, souvent par facilité, pour faire de l'argent facile, avec toutes les conséquences épouvantables que ça peut avoir. Enfin, le nombre de jeunes qui sont aujourd'hui, qui sont morts de ce trafic de stupéfiants, ou en tout cas d'y être entrés. Là aussi, il y a un travail éducatif à faire. Il faut remettre en place l'éducation populaire dans les quartiers, voire même dans nos campagnes.
Vous voulez que je vous raconte une anecdote ?
Allez, il nous reste quelques secondes, oui.
Quelques secondes ? Dans les années 90, il y a eu un grand mouvement de la jeunesse contre ce qui s'appelait à l'époque, je crois que c'était le CIP.
Oui.
Je me rappelle, moi j'étais militant syndical à l'époque et je me rendais souvent à Paris pour travailler avec mes collègues, mes camarades du syndicat. Et je croise ma collègue qui était responsable départementale de Seine-Saint-Denis. Et je lui dis que dans un département comme le nôtre, faute d'avoir des emplois, que j'espérais que le CIP n'offre pas une mauvaise perspective à la jeunesse de mon département. Elle éclate de rire et elle me dit « ça risque pas d'arriver chez moi ». Je la regarde, je dis « comment ça, la Seine-Saint-Denis, c'est quand même pas un département de riches ?» Et elle me dit « non ». Enfin, elle éclate de rire, c'était un rire jaune. Elle me dit « non ». Mais ce qui est le grand drame de la Seine-Saint-Denis à l'époque, donc ça fait déjà 30 ans, hein, c'est que ce sont les jeunes qui, dans le cadre de l'économie souterraine, ce sont les jeunes qui font vivre les familles. Mmh. C'est-à-dire qu'on a...
Il y a un inversement de valeur, finalement.
De valeur et de façon de fonctionner. Alors, je dis pas que c'était comme ça dans toute la Seine-Saint-Denis, mais dans la ville où elle travaillait... et où elle habitait, c'était ce qu'elle constatait. Donc on voit bien que ces changements de paradigme créent des difficultés, et j'y reviens, des difficultés qui sont vécues d'abord par les personnes qui sont les plus précaires elles-mêmes.
Voilà, d'où un engagement.
D'où la nécessité de s'occuper de ces questions-là et de façon déterminée, mais pas de façon simpliste, parce que ce sont des questions complexes.
On va devoir s'arrêter là, Yannick Le Cam, parce que le temps passe, avec donc cette volonté, hein, pour schématiser, du Parti communiste, de vouloir rassembler la gauche pour mettre en place un programme qui serait un programme uni, on l'aura compris. Merci infiniment Yannick Le Cam d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la Fédération du Parti communiste des Côtes d'Armor et vous êtes venu de bon matin au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Et je vous remercie.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.